Bonjour, vous écoutez Un auteur, une page. Je vous rappelle le principe. Je demande à des auteurs de lire une page de leur livre, j'enregistre et je poste le tout sur Internet. Cette semaine, j'ai demandé à Noël Pons, co-auteur avec Jean-Paul Philippe, du livre 92 Connexions, Les Hauts-de-Seine, laboratoire de la corruption, un livre paru chez Nouveau Monde Édition. Conflits d'intérêts, clientélisme, fraude au marché public, détournement de fonds publics, emplois fictifs. Les deux auteurs décortiquent les affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années et qui ont pour point commun le même département, les Hauts-de-Seine. Écoutez Noël Pons.
Dans la zone géographique privilégiée des Hauts-de-Seine, nous avons décrit une stratégie de conquête et de conservation du pouvoir. Les pratiques utilisées restaient relativement classiques et avaient été testées et validées dans l'environnement parisien et dans l'Essonne. Ces manipulations étaient aussi largement utilisées par nombre d'autres partis politiques. Le constat pointe un grand nombre de dérives graves, qui se cumulent et qui s'inscrivent dans la durée. Des pratiques qui ont été relevées dans la plupart des structures comme s'il s'agissait d'un mode de gestion partagé dans l'ensemble du département. Il semble que, pendant cette période, il existait au pire une volonté, au mieux une incapacité à respecter l'ensemble minimal de règles sans lesquelles une communauté ne peut fonctionner de manière démocratique. Jusqu'à ces dernières années, le corps électoral apparaissait comme inféodé à la famille et dans l'ensemble des collectivités, une approche familiale et cumulaire de la politique semblait être installée. Les dirigeants avaient une forte tendance à se servir sur la bête. C'est un constat majeur qui a été fait. Repas, véhicules, voyages, les rapports de la Cour des comptes, des chambres régionales, les investigations réalisées font tous état à un moment ou à un autre de la présence de cette dérive assez minable. Ce qui est le plus ennuyeux, c'est qu'il semble que cela soit considéré par tous comme un comportement quasi normal, à tout le moins comme pas très grave. Or, un comportement éthique sur ce point est essentiel. Une pratique assez généralisée constituée, cela n'a guère changé et c'est bien triste, à utiliser les marchés publics comme le support de toutes les manipulations, depuis la multiplication des travaux obtenus de gré à gré, octroyés aux entreprises méritantes, jusqu'aux surfacturations énormes de travaux et de prestations qui ont créé des foyers de corruption particulièrement difficiles à prouver. Ces derniers, dans de telles collectivités particulièrement riches, constituent une véritable manne pour les partenaires privés. C'est un peu comme si l'argent de l'État, l'argent de la collectivité, était destiné à être systématiquement détourné vers des bénéficiaires physiques. D'aucuns prétendront qu'il ne s'agit que d'une manière de subventionner l'activité des entreprises. Cependant, pour celles qui sont éligibles dans un tel système, la typologie des fraudes relevées dans ce domaine laisse à penser que ces dernières facilitent l'enrichissement personnel et non l'amélioration du bilan des entreprises et également la corruption. Ces manipulations étaient accompagnées de comportements quasiment mafieux lorsque les enquêtes s'approchaient du magot. Encore une fois, ces méthodes ne sont pas propres aux Hauts-de-Seine, nous avons bien montré qu'elles existaient ailleurs, mais cela n'innocente personne pour autant. Nous avons aussi identifié de nouvelles pratiques relevant du conflit d'intérêts, plus difficiles à cerner, car elles sont complexes et diversifiées et se passent entre soi, assorties de plans de communication complexes destinés à enfumer les personnes qui ne participent pas au banquet. Comme dans le mythe de la caverne, il ne nous reste plus qu'à observer les ombres. On ne voit plus les acteurs, mais leurs images. Ces pratiques sont organisées autour de conflits d'intérêts et de connivence, élaborés bien en amont. À la lumière de ce que nous avons identifié, nous savons maintenant quels sont les problèmes créés par cette élite politique et administrative accompagnant le monde des affaires, qui considère le respect des réglementations comme un fardeau. Reste au lecteur, qui est aussi électeur, à tirer ses propres conclusions et à se souvenir de cette citation d'Alcide de Gasperi, l'un des créateurs de l'Europe. Le politicien pense aux prochaines élections, tandis que l'homme d'État pense aux prochaines générations.
C'est pas beau ça. Ouais. Donc là, vous venez de lire la conclusion de 92 connexions.
Voilà.
Alors pourquoi avoir lu la conclusion ? Parce que généralement un auteur ou un des co-auteurs préfère lire une page du livre, du cœur du livre. Là en l'occurrence vous choisissez de lire la conclusion. Pourquoi ? Parce qu'elle synthétise vraiment...
Parce que cette conclusion nous a semblé, on en a beaucoup parlé avec Jean-Paul pendant ce que vous nous avez proposé cette lecture, et il semble que le livre étant constitué de quatre parties différentes avec des de spécificité technique à chacune de ces parties, il semblait plus cohérent d'exposer la vision horizontale de l'opération, dans la mesure où effectivement c'est ce que nous aimons faire ressortir. Les plans d'une autre partie nous a semblé limiter le caractère global de l'ouvrage.
Effectivement, à la fin de la conclusion, vous laissez un peu le lecteur pas prendre ses responsabilités, mais se faire sa propre opinion.
Oui, mais c'est pas que pour le Léo de Seine, hein. Je veux dire, c'est assez...
C'est
quelque chose de très large.
C'est ce que vous dites, en fait.
Léo de Seine, c'est parce que tout simplement, il y avait un pont à passer, et derrière ça, on n'a pas vu un responsable d'un de ces montages condamné depuis 20 ans. Alors qu'à Marseille, les gens sont condamnés assez rapidement, il y a des niveaux élevés, on a vu dans le Nord, là on dirait qu'il y a une sorte de blocage, je sais pas, d'ensablage des opérations, voilà, c'est ce qui ne serait pas intéressant, d'autant plus que c'était quand même de là qu'une bonne partie de la direction des affaires politiques de la France est sortie pendant les années, hein. Donc effectivement c'était aussi important.
Ok. Et aujourd'hui, le bouquin marche bien, apparemment.
Écoutez, il marche pas mal.
Premier dans les ventes dans le 92, d'ailleurs.
Non, je sais qu'on a fait des bons scores. On a encore quelques scores non pas remarquables, mais qui sont intéressants, puisque je pense qu'on a vu le caractère général de l'ouvrage plus que le côté le ciblage géographique, et effectivement il y a eu beaucoup d'interviews télévision ou autre, et elles se poursuivent d'ailleurs de manière assez, mais maintenant je pense qu'on a réussi quelque chose, parce que ça se poursuit par exemple non plus sur le 92 mais sur la notion de conflit d'intérêt dans telle opération. Ça veut dire que finalement ce livre, qui était un livre qu'on a fait un peu de manière assez étrange, puisque avec Jean-Paul nous sommes plutôt des techniciens que des écrivains, hein, bien qu'on ait pas mal de choses, mais pour chacune de ces dérives on a encadré quelques points de contrôle, on a fait toujours le lien entre qu'est-ce que je dois regarder si j'ai un doute, qu'est-ce que je dois faire. C'est pas un bouquin de technicien, c'est pas un bouquin de contrôleur, mais c'est un bouquin de citoyen qui se pencherait sur une situation. Et aussi, voilà, c'est un peu ça.
C'est presque une méthode, en fait.
C'est une méthodologie de contrôle. Disons qu'à un moment donné, on s'est dit que si les méchants avaient toutes ces techniques, parce qu'ils ont les moyens de payer les personnes qui les mettent en place, il n'y a aucune raison que ceux qui pourraient analyser ces points-là ne soient pas au courant de ces montages.
D'accord.
Hein, voilà, donc, et là encore, on est encore dans des méthodes qui sont relativement simples. Voilà.